Vous écoutez
RMC.
Après 117 jours de galère, Dennis Van Veenberg a bouclé son tour du monde en solitaire. Enfin, le skipper belge a franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne samedi dernier, hors délai, vous le savez, 24 heures trop tard. Il n'est donc pas devenu officiellement le premier belge de l'histoire à terminer le Vendée Globe, même si dans le cœur des Belges et aussi des Français, il a quand même réussi cet exploit. Dennis Van Veenberg, skipper de l'IMOCA, d'Antirène Group et dans les grandes gueules du sport. Bonjour Denis.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre super émission.
Merci d'être avec nous, c'est un véritable plaisir. On voulait déjà vous avoir la semaine dernière. Bon, on sait que, évidemment, c'est compliqué, il faut se remettre de ses émotions. Première question, une semaine après, il reste quoi de ce Vendée Globe?
Il reste un sentiment indéfinissable de travail accompli, de contrat rempli, de plénitude, de joie, d'amour qu'on est venu me donner au Sable d'Olonne, d'affection. Voilà, c'était énorme. Comme je disais, j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Je suis toujours sur un nuage, un peu en lévitation, comme un moine bouddhiste qui serait en pleine prière, mais. Voilà, il reste ça en fait. Pour le moment, il reste ça et on n'a que du bonheur en fait.
Denis, quand on vous a appris que vous alliez pas être classé et donc que la ligne n'allait pas être matérialisée pendant l'arrivée de ce Vendée, est-ce que vous avez eu peur à un moment d'arriver comme ça incognito dans le port sans que personne vous dise et que le capitaine du port vous dise « Oh ben garez-vous là quoi !» Mais est-ce que vous avez eu peur finalement d'arriver tout seul abandonné ?
Dans l'anonymat.
J'ai pas pensé à ça. mais ce qu'il y a, c'est que en fait, 10 jours ou 5 jours avant, j'étais prêt à abandonner et 2-3 fois, on avait des plans justement d'abandon et on avait discuté avec la direction de course. Donc, moi, je me suis dit, même si j'arrive, qu'il n'y a personne, en tout cas, j'aurais fait le boulot. Et voilà, moi, j'ai respecté l'esprit de la règle puisque je n'ai même pas déplombé mon moteur plus tôt quand la ligne était fermée déjà. J'ai fait le parcours, je suis passé dans les portes de ligne d'arrivée et tout, qui sont des portes virtuelles évidemment. Mais voilà, donc j'estime qu'il y a la règle et puis il y a l'esprit de la règle et nous, on a respecté cet esprit de la règle à 200%. Donc, même s'il y avait eu personne, je pense que j'aurais eu le même sentiment. Mais après, c'est vrai que quand il y a du monde pour vous accueillir, vous rendez compte que vous avez suscité quelque chose. Ouais.
Et vous avez été accueilli comme un héros. Hein.
Ouais,
on en parlait.
Avec des gens qui étaient déguisés en frites, hein, avec des gens déguisés en frites, notamment.
Comme tout. Il est belge, évidemment.
Non, c'est la fédé de la loose. Ils étaient là.
Les symboles. Julien et après Marion. Julien.
Oui, bonjour Denis. Justement, sur le fait de l'aspect sportif, le fait de ne pas être classé officiellement, alors que vous avez respecté toutes les règles et que vous avez tout fait entre guillemets dans les normes, sauf d'arriver entre guillemets hors délai, est-ce que sportivement c'est une entre guillemets une déception? Est-ce que comment vous vivez ça ou est-ce que c'est vous considérez que c'est normal entre guillemets comment vous vivez ce déclassement entre guillemets?
Il y a deux options. Hein. Je dirais que oui, comme je disais juste avant, il y a la règle et puis l'esprit de la règle. Nous, en tant que marins, on a fait le boulot. La règle, c'est une histoire de terrien. Donc, des règles, ça peut changer en bonne intelligence et en réflexion. Maintenant, ils ont gardé l'optique de rester plutôt intransigeant là-dessus. Après, je suis sportif, donc l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Hein. Je pense que c'est important sur un terrain de sport de respecter ça.
On a un petit problème, un petit souci technique avec la liaison. Évidemment, on va retrouver Denis, notre skipper belge, dans quelques instants. Oui, Denis est revenu. Denis.
Il est reparti.
Denis, il est reparti faire le Vendée Globe, peut-être. on ne sait pas. On va rétablir la liaison. Il est 11h49. Vous écoutez RMC dans quelques instants. Les paris RMC. Mais on va rester, évidemment, avec Denis Van Veenberg, qui a donc terminé dernier de ce Vendée Globe, vous le savez. Et c'est peut-être aussi l'une de ses réussites. Parce que moi, j'ai envie de vous interpeller, les GG, rapidement. Quand on termine avant-dernier, on n'a pas la lumière. Mais dernier, hors délai,
Bien sûr,
a la lumière.
C'est ça. Mais tu sais qu'au Tour de France, ils se battent
pour être dernier.
Maintenant,
ils se battaient.
Il fut un temps, la lanterne rouge était un objectif. Tu avais le maillot jaune, évidemment, le premier, mais être dernier avant la lanterne rouge, d'abord parce que tu touchais une prime plus importante, et à la fin, ils se bagarraient pour terminer dernier. Donc, ils étaient un peu largués à l'arrière, les mecs.
On a retrouvé notre skipper belge. Denis, on a eu peur que vous soyez reparti pour faire un Vendée Globe, mais je ne suis pas sûr que ce soit prévu tout de suite.
Non, pas tout de suite, non.
Très bien. Marion Bartoli, une question pour Denis.
Moi, j'ai une question, effectivement, Denis. Bon, tout d'abord, félicitations, parce qu'en plus, vous avez parcouru cette distance avec une équipe 100% bénévole. Vous étiez vous-même, en 2018, patron de PME, et vous êtes lancé dans cette ambition pharaonique et démesurée d'arriver à réaliser le Vendée Globe. Donc, j'aimerais savoir, justement, dans cette entreprise 100% bénévole, où je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de débrouillardise, comment s'est passée aussi la préparation pour en arriver, justement, à prendre ce départ du Vendée Globe et de réaliser ce magnifique parcours?
Bah alors c'est vrai que c'était un vrai challenge hein. Déjà c'était un vrai challenge d'assumer un projet Vendée Globe en Belgique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de culture voile en Belgique comparé à la France ou d'autres pays. Donc c'était, je dirais, la première victoire, c'était d'annoncer le projet. La deuxième, c'était de trouver un partenaire qu'on a trouvé. Et après, on a eu des qualifs. Hein. C'est comme pour les JO, il faut se qualifier, ou pour une Coupe du Monde. Donc c'est 4 ans de navigation, 4 ans de qualification, et la qualification, je l'ai validée en juin en arrivant à New York. Sur une course qui arrive à New York, donc c'était aussi un peu comme dans les films, hein, parce que on arrive à New York et on est qualifié, donc au pied de la skyline de Manhattan, donc forcément ça rajoutait, je dirais, du suspense et un peu de dramaturgie dans toute cette épopée. Et puis après, bah il y a eu toute la préparation pour le Vendée Globe. On a quand même eu un professionnel de la course au large qui avait plusieurs tours du monde à son actif, qui est venu nous rejoindre pour nous conseiller. Et puis donc on a continué à avancer comme ça, en tout cas.
Philippe Saint-André pour Denis.
Ouais, Denis, quelle a été la plus grosse galère durant cette compétition ? Je sais que tu en as eu beaucoup, mais quelle a été la plus grosse ?
Ben, je dirais que les galères, elles ont commencé le 12 novembre, et puis elles se sont terminées
le
7 mars. Non, c'est vrai qu'on a cumulé certaines choses, et que en fait, le fait d'être arrivé hors délai, c'est la dernière grosse galère, c'est-à-dire la perte de ma grand voile qui a fait que je pouvais pas avoir de vitesse. Et que je suis remonté deux fois au mât pour essayer de faire des bricoles, et que, in fine, on a fait quelque chose qui était un peu provisoire et aléatoire, mais qui a tenu. Mais par contre, on a pris des risques parce que ça pouvait faire tomber le mât. Donc c'est vrai qu'avec ça, je pouvais pas avoir une vraie vitesse. Ben, c'est comme si j'avais qu'un tiers de mon moteur, hein. Donc, les 24 heures, ils sont là, hein. Il faut pas chercher plus loin. Je pense qu'avant, on avait navigué en bon père de famille, même si c'était pas des options très, très casse-cou ou très rapides, peut-être. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisageait. Donc voilà, donc après ça fait partie de notre sport, c'est un sport mécanique, hein, et donc la casse fait partie de notre sport.
Denis, entre nous, vous allez être présenté sur la grande place de Bruxelles, je crois, la semaine prochaine. Vous êtes l'invité de beaucoup de médias. Il y a eu beaucoup de monde pour voir votre arrivée. Vous êtes dernier du Vendée Globe. Est-ce que c'est pas...
Il y a trois personnes qui s'en tirent.
Le micro, Christophe.
Il y a trois personnes
qui s'en sortent bien. Et qui, médiatiquement, dans ce Vendée, c'est le vainqueur, c'est Violette d'Orange et c'est Denis.
Mais oui,
c'est les trois stars, c'est les trois stars du Vendée.
En arrivant bah, écoutez, en délai comme ça, on a beaucoup parlé de vous.
Ben oui, alors c'est pas le but, hein, on l'a pas fait exprès. On aurait préféré faire autrement, mais c'est pas grave. Alors c'est vrai que, être accueilli sur la Grand Place, pour nous, dans la mémoire collective belge, c'est vrai que c'est les grands moments, c'est Eddy Merckx, c'est Justine Hénin, c'est les Diables Rouges, ouais. C'est les champions olympiques, donc c'est un vrai honneur, une vraie fierté de pouvoir y aller. Alors maintenant, j'espère qu'on sera pas juste 15 à la Grand Place, parce que sinon, ça va faire vide. Mais voilà, parce que s'il y a juste ma famille et puis mes copains, ça va faire petit. Mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nous, qu'on a beaucoup parlé du projet. Je vais être reçu par le roi aussi, donc c'est quand même des moments pour un sportif et pour un projet comme ça, avec toutes les galères qu'on a connues aussi avant le projet, parce que voilà, on n'avait pas de budget. Moi, j'ai dormi dans le bateau pendant 2 ans, donc je pense pas qu'il y ait un skipper Imoca qui dorme dans son bateau. Donc voilà, c'est une vraie consécration quand même par rapport à tout ça.
Ouais. Vaut mieux arriver hors délai dans ces cas-là, quand on voit l'histoire d'incroyable de Denis.
Vous êtes un peu, Denis, le contre-exemple de ce qui est devenu le Vendée avec le temps. Au début, c'était une aventure. Il y avait plein de garçons et de filles comme vous qui se lançaient avec 3 francs 6 sous et qui essayaient de faire le tour du monde. Ça reste évidemment une aventure, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la performance pure qui compte, et aussi d'avoir des bateaux toujours plus chers, toujours plus rapides, toujours plus connectés. Vous n'êtes pas parti dans cet esprit-là. Comme quoi, on peut encore faire le Vendée comme ça. Mais bon, à la limite, parce qu'on a bien compris qu'à partir d'une certaine date, vous n'êtes plus invité, quoi. Si vous arrivez 117e jour, c'est à la porte, quoi. Est-ce que vous en voulez, quelque part, aux organisateurs d'avoir appliqué cette règle et de ne pas d'avoir fait une exception? Vous êtes parti, vous êtes arrivé, vous avez respecté les règles. Franchement, c'est pas très sympa de leur part.
Ouais, alors ça, c'est une question d'opinion. Après, je dirais que sur le moment même, non, j'en veux pas aux organisateurs. Ils ont posé une règle. C'est avant, en amont, où il fallait voir si cette règle était intelligente. Voilà, moi, je pense que la course au large, c'est comme les histoires d'amour. On sait quand ça commence et on sait jamais quand ça termine. et que c'est dommage si on commence une histoire d'amour de savoir qu'il y a une date de fin, parce que sinon on n'y va pas, quoi. Et que dans l'avenir, ben voilà, moi je prends toujours l'exemple d'Yves Parlier qui avait mis 126 jours. Ben, si on réduit le temps de parcours, ça va favoriser finalement les abandons, parce que les gens ils vont se dire je vais jamais y arriver, donc c'est mieux que j'abandonne, parce que c'est pas la peine de continuer. Donc je pense que ça fait pas partie de l'esprit du Vendée Globe. Après, j'ai des règles, ben ça c'est comme tous les sports, hein, il faut des règles, il faut un arbitre, et il faut les respecter derrière ça, hein, ça c'est comme ça.
Ouais, et puis une histoire d'amour de 117 jours, c'est plus une histoire d'amour, c'est une amourette, hein. Enfin, je sais pas, t'as déjà eu des...
Ça dépend pour qui, hein.
Bien, 4 mois, la passion reste intacte.
Ouais, voilà.
Ok. Donc c'est de la passion. Le Vendée Globe, c'est la passion, et Denis est venu nous le dire aujourd'hui.
C'est la passion et des galères, quand même.
Merci beaucoup. Au bout de 4 mois, c'est quand même pas les galères tout de suite.
Non, ça n'est pas avec les galères.
Normalement, pas trop.
C'est dommage que Denis soit pas là, il nous aurait éclairé là-dessus.
Merci, Denis, d'avoir été avec nous. Et franchement,
Denis Charvet.
Oui, j'ai bien compris. Et franchement, on vous accueille avec grand plaisir dans cette émission en studio avec nous. Là, je sais que vous êtes très pris en Belgique par les médias et tout ça, mais ce sera un plaisir de vous accueillir de nouveau. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et encore bravo et félicitations pour ce Vendée Globe. Félicitations à tous les navigateurs, à tous les skippers, et on pense notamment à notre Français, Fabrice Amédéo, qui a terminé avant-dernier. C'est important de lui.
Et il se demande quel est le vrai dernier, du coup.